Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, pas de fil conducteur dans cet épisode, je vais plutôt revenir avec vous sur pas mal de petites choses qui sont arrivées ces derniers jours, l'arrivée d'iOS et d'iPadOS 15, pardon. Pas mal de petits achats que j'ai fait et dont je vais vous faire la review très prochainement sur le blog, et aussi les derniers articles qui sont parus là les jours et les semaines qui viennent de passer. Alors on va déjà commencer par les publications sur le blog qui viennent d'arriver sur le blog ces derniers jours et ces dernières semaines. Plus particulièrement avec un article que j'ai publié ce samedi qui vient de passer. C'est l'article de mon test sur l'iPhone 13 Pro Max. J'ai reçu l'iPhone 13 Pro Max le jour de sa sortie. Voilà, je l'ai bien testé pendant une semaine. Et je reviens avec vous dans cet article sur les choses qui m'ont plu, qui m'ont un peu moins plu. Je dois avouer que, comme les autres années, je m'attendais vraiment à être agréablement surpris par le nouvel iPhone. Et il y a quand même des petits détails qui m'ont un peu chiffonné, on va dire. Rien de très important. Mais bon, voilà, pour un téléphone... Moi qui venais de l'iPhone 11 Pro Max, je m'attendais quand même à passer le stade vraiment au-dessus. Et alors c'est vrai que l'iPhone 13 Pro Max est un excellent téléphone, très beau téléphone, fait avec des matériaux extrêmement premium, avec des specs qui sont vraiment folles par rapport à moi, un téléphone qui avait 2 ans. Mais voilà, il y a un ou deux petits détails qui me chiffonnent et je vous en parle dans ce dernier article que j'ai publié samedi dernier. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à aller voir sur le blog. Bien sûr, dans les notes de l'épisode, vous trouverez tous les liens pour trouver cet article, les liens du blog, les liens de mon Twitter. Enfin, l'article sera vraiment pas difficile à trouver. C'est le dernier article en date qui a été publié. À moins que d'ici que cet épisode ne soit publié, j'arrive à sortir un autre article. Mais bon, il sera quand même assez facile à retrouver. Donc voilà, l'iPhone ayant été reçu, donc j'en ai fait un test. C'est vrai que moi je testais depuis pas mal de semaines iOS 15 et iPadOS 15. Alors autant iOS 15, bon c'est vrai qu'on en a vu pas mal de vidéos sur le web de gros reviewers américains, même de reviewers français qui le testent depuis des mois et des mois. Je le testais aussi depuis sa sortie, sa première bêta développeur. J'ai pas voulu vraiment faire d'article avant cela parce que je le testais pas sur mes machines de production. C'était sur un iPhone et sur un iPad qui reste à la maison, que j'ai pas toute la journée, tous les jours avec moi. Donc voilà, je le testais vraiment par maman, mais pas en conditions réelles d'utilisation tous les jours. Alors voilà, j'ai bien aimé tester toutes les bêtas, mais c'est vrai que là, depuis que les versions finales sont sorties et que j'utilise réellement, alors iOS 15, oui, parce que j'ai le nouvel iPhone et qu'il est installé dessus par défaut, mais ce dont j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui, c'était plus précisément d'iPadOS 15. iPadOS 15, je trouve, alors, il y a... On peut lire des tas et des tas de choses sur le web, comme quoi iPadOS 15 n'est pas une grosse avancée, que les widgets n'apportent pas forcément grand-chose. Moi, je l'ai déjà dit et redit, ça fait plusieurs années, ça devient même à force un running gag, parce que j'arrête pas de le répéter, que ce soit sur le blog ou que ce soit sur le podcast. Moi, j'utilise l'iPad au quotidien, c'est ma machine principale, c'est ma machine de production sur laquelle je produis mes épisodes de podcast, sur lesquels j'écris mes articles de blog, sur lesquels, enfin, voilà. Toute personne qui utiliserait un Mac, un ordinateur dans son quotidien, moi, ma machine de production, c'est un iPad Pro 2020. Donc voilà, je suis quand même assez, assez attentif à tout ce qui peut me permettre de gagner en productivité, tous les petits gains de productivité que je peux avoir au niveau de l'iPad. Et je dois avouer que là, en termes d'utilisation quotidienne, alors, je pourrais même pas dire agréablement déçu. Je trouve, les mots vont peut-être vous paraître forts, mais je trouve réellement qu'iPad OS 15 est une énorme, énorme avancée en termes de productivité pour les gens qui, comme moi, utilisent l'iPad au quotidien, utilisent l'iPad comme machine principale, utilisent l'iPad comme machine de production. Alors si pour certaines personnes l'ajout de widgets comme ça a été le cas depuis maintenant presque un an et demi, deux ans sur l'iPhone, sur tous les écrans, les différents écrans de l'iPhone, comme on a eu depuis deux ans, donc si cette arrivée de widgets un peu partout sur l'iPad peut paraître anecdotique, pour moi c'est loin, mais vraiment loin d'être le cas. Je vais essayer de vous mettre la description si alors je sais plus si, trop si dans la description des podcasts on peut mettre des photos, mais si on peut mettre des photos, je vais essayer de vous mettre des photos, moi, de mes écrans, des différents écrans que j'utilise sur iPad. Et je dois avouer que cet ajout de widgets sur les écrans m'aide. Mais tout particulièrement du fait que maintenant j'ai rangé mes différents écrans d'iPad de telle façon que je n'ai clairement plus besoin de chercher quoi que ce soit en termes d'application. J'ai rangé mes écrans de telle façon où chaque écran, alors j'ai trois écrans moi au final, un écran qui est plus fait pour le divertissement, un écran qui est fait pour la productivité, pour ma création de contenu, et un écran qui va servir à toutes les autres apps, on va dire mes apps de messages, mon calendrier, la météo, enfin toutes ces choses-là. Et voilà, je sais qu'en fonction de chaque écran où je vais me trouver, j'aurai quasiment rien à faire, enfin rien à chercher, tout sera visible en plein écran sans que j'aille aller chercher dans une ou l'autre des apps qui sont dispersées sur mon iPad. Autre ajout que j'adore sur iPad OS 15 et qu'on avait déjà depuis presque un an sur l'iPhone, c'est la bibliothèque d'apps. C'est la dernière page en fait que vous pouvez voir sur votre iPhone où sont rangées toutes les autres applications, les applications que vous ne voulez pas voir sur vos écrans, vous pouvez les mettre directement dans cette bibliothèque. Elles sont toujours sur votre device, elles sont toujours sur votre iPhone, elles sont toujours sur votre iPad, mais vous ne les avez plus visibles directement sur l'écran principal, sur les écrans principaux. Et donc, ça fluidifie, on va dire, ça désengorge tous les écrans. Vous avez visible sur l'écran que les apps qui ne vous sont véritablement nécessaires. Et les apps que vous n'utiliseriez pas tous les jours, vous pouvez les garder sur votre iPad, mais qu'elles ne soient pas forcément toujours visibles. Et ça, c'est vraiment une énorme avancée. Je commence vraiment à utiliser tout ce qui est automatisation sur mon iPad. Alors, je commençais déjà à pas mal les utiliser au niveau d'HomeKit, mais là, c'est vrai que maintenant, j'essaye de jouer beaucoup plus avec Shortcut à essayer de créer des petites automatisations qui pourraient, comme sur les personnes qui utiliseraient un Mac et qui, il y a encore quelques années, auraient utilisé Automator sur Mac, j'essaye d'automatiser un peu toutes les choses que j'aurais à faire qui seraient récurrentes sur mon iPad. Et pouvoir les automatiser avec Shortcut, c'est aussi un énorme, énorme gain de productivité. Enfin voilà, je voulais revenir un petit peu, je voulais pas faire très long, parce que je pense que quand même que je terminerai par faire un article sur mon utilisation de l'iPad avec iPad OS 15, mais voilà, je voulais revenir avec ce petit épisode sur moi, la sensation que j'ai là depuis la sortie publique d'iPad OS 15 et la sensation d'avoir vraiment un énorme gain de productivité du fait d'avoir d'avoir optimisé, comme je vous dis, toutes les pages de mon iPad et de pouvoir retrouver mes applications, les choses que j'utilise vraiment au quotidien plus facilement. C'est vraiment un énorme gain de temps et de productivité. Donc comme je vous dis, je vais voir si je peux vous mettre quelques images en description de cet épisode, et au cas où, où je ne sais pas au moment où j'enregistre, mais au cas où je ne pourrais pas mettre ces images en description de l'épisode, je vais essayer de très rapidement de vous faire un article sur le blog sur ce sujet. Autre petit sujet dont j'avais envie de vous parler, comment s'est passé le démarrage de l'iPhone. Alors, de ce que je m'en rappelle, quand j'étais passé de l'iPhone 10 à l'iPhone 11 Pro, j'avais trouvé que le passage d'un iPhone à l'autre, le rapatriement de toutes mes données avait été assez facile. Et pourtant, à l'époque, j'étais encore dans mon ancien appartement, c'est-à-dire que je n'avais pas la fibre. J'étais encore dans un réseau qui était... Alors, j'utiliserais bien le mot pourri, mais j'ai l'impression que pourri n'a encore pas le mot assez fort. Parce que je devais aussi entre 2 et 3 mégas, grand maximum. Et pourtant, j'avais trouvé que le passage à l'époque avait été assez rapide, avait été assez facile. Là, le vendredi de la réception de l'iPhone 13 Pro, donc j'ai reçu l'iPhone 13 Pro à midi, je suis parti travailler, et le soir quand je suis rentré, j'ai commencé à déballer mon iPhone, à essayer de rapatrier toutes mes données, parce que bien sûr, vous doutez bien que j'avais vraiment envie de m'amuser avec mon nouveau jouet, et je dois avouer que ça n'a pas été de tout repos. Alors déjà, au moment de quand vous démarrez votre iPhone, il vous demande si vous voulez faire une copie directement par le réseau ou alors rapatrier d'iPhone à iPhone ou alors de passer par iCloud. J'avais fait au moment du passage de l'iPhone 10 à l'iPhone 11, j'avais fait par iCloud, donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose. Et il a fallu vraiment que je m'y reprenne à, on va dire, trois fois, il me semble, deux ou trois fois avant que le téléphone veuille bien prendre ce que je lui demandais en compte. Les deux premières fois, ça a planté au bout de 10 secondes. Et pourtant, là, j'ai dans mon nouvel appartement, j'ai une fibre qui marche très, très, très bien. J'ai un très, très bon réseau. Et il a fallu que je m'y reprenne à deux ou trois fois avant que ça marche. Alors déjà, ça m'a pas. Enfin voilà, j'étais un peu déçu de l'expérience en tant que telle. Au bout de deux ou trois fois, l'iPhone a réussi à commencer à se synchroniser. Donc mes données ont commencé à se rapatrier sur le nouvel iPhone. Voilà, l'iPhone c'était fait. Après, il a fallu passer à l'Apple Watch. Donc j'ai désynchronisé mon Apple Watch de mon ancien iPhone pour le resynchroniser sur le nouvel iPhone. Et alors là, je vais pas faire trop long parce que ça a été un énervement qui a duré, on va dire, quasiment 2 heures sans exagérer. Mais alors quelle galère pour rapatrier une Apple Watch sur ce nouvel iPhone, iPhone 13 Pro. Sans vous mentir, à partir du moment où vous savez comment ça se passe, si vous avez une Apple Watch, vous désynchronisez l'Apple Watch de votre ancien téléphone, elle fait une sauvegarde automatiquement au moment de la désynchronisation, et après vous allez sur votre nouveau téléphone, vous flashez l'espèce de petit nuage qui apparaît sur l'Apple Watch, et automatiquement ça resynchronise, ça vous demande d'aller rechercher la dernière sauvegarde d'iCloud, donc celle qui s'est faite juste avant au niveau de la désynchronisation, et puis voilà, normalement sur les montres, sur les derniers modèles, c'est assez rapide. Moi, je me rappelle que la dernière fois que j'avais fait le passage d'un téléphone à l'autre, ça avait mis quelques minutes, tout au plus une vingtaine de minutes, le temps de tout resynchroniser. Là, sans vous mentir et sans faire, alors c'est, ça peut faire rire, mais sans faire le Marseillais, ça, le temps de resynchroniser mon Apple Watch, ça a dû me prendre en tout et pour tout 2 bonnes heures et demie, voire même peut-être un peu plus. À la fin, je me demandais vraiment si l'Apple Watch n'était pas bloqué parce que ça n'avançait plus. Alors, au bout de ces 2 heures et demie, heureusement, ça s'est terminé. Ma watch était bien synchronisée. Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que moi j'ai encore une Apple Watch série 4 et est-ce qu'elle commence vraiment à être. Est-ce que le processeur de l'Apple Watch série 4 commence à être un peu poussif et que ça aurait été plus rapide si j'avais un des derniers modèles, une 5 ou une 6? Écoutez, je vous l'avais déjà dit dans le dernier épisode, je vais dès leur sortie ou dans très peu de temps, je pense là début du mois de novembre, si elles sont sorties. Alors là, ces derniers jours, il y a la rumeur comme quoi il y aurait un leak de chez quelqu'un de chez Hermès qui dit que l'Apple Watch 7, les précommandes commenceraient le 8 octobre. Pour l'instant, on n'en sait encore rien. Donc voilà, moi je pense que je précommanderai la mienne tout début novembre. Donc je vous ferai un retour à ce moment-là, que ce soit sur le podcast ou que ce soit sur le blog, pour vous dire si avec la nouvelle Apple Watch, avec la série 7, est-ce que ça a été plus rapide quand je redésynchroniserai la 4 pour resynchroniser la 7 sur l'iPhone 13. Mais bon voilà, j'ai quand même été assez largement déçu. Au niveau de la synchronisation. Et je ne sais vraiment pas à quoi c'est dû. Je ne pense pas que ça soit dû à mon réseau. Comme je vous le dis, j'ai un superbe réseau là dans mon nouvel appartement. Donc je ne pense vraiment pas que ça vienne de ça. Est-ce que ça vient de l'Apple Watch? Est-ce que l'Apple Watch Series 4 commence vraiment à avoir un processeur qui commence à avoir du mal? Je ne sais pas. Je vais approfondir mes tests quand j'aurai reçu l'Apple Watch 7. Mais là, j'ai été un peu. Un peu déçu de l'expérience au niveau de la synchronisation de la montre. Mais bon, voilà. Là, ça fait pratiquement une semaine que tout est synchronisé, que le téléphone marche bien. Alors, si vous avez déjà lu le dernier article du blog, les petits défauts dont je parlais dans l'article, je commence à m'y faire. En outre, le design que j'attendais énormément. Ce design proche des derniers iPads, ce design carré à l'iPhone 4. Alors j'ai vraiment eu du mal au déballage de l'iPhone 13 Pro. Enfin voilà, j'avais pas eu l'occasion d'aller voir l'iPhone 12 en magasin du fait de la pandémie. J'avais pas eu l'Apple Store de Strasbourg, le plus proche de chez moi, avait été fermé pendant vraiment très longtemps. Donc j'avais pas eu l'occasion d'aller le voir en magasin. Et là, au moment de l'avoir dans les mains, j'ai eu vraiment un peu de mal. Mais là, au bout d'une semaine, je commence vraiment, vraiment bien à m'y faire. Tous les petits défauts commencent à se résorber. Il est vrai que quand vous passez à un nouveau téléphone, généralement, les 2, 3 premiers jours sont assez difficiles. Alors, on a la pression, même si on passe sur un modèle beaucoup plus puissant, comme ça a été mon cas, en passant de l'iPhone 11 Pro Max à l'iPhone 13 Pro Max. Voilà, le processeur est bien meilleur, mais les premiers jours, on a quand même vraiment, vraiment l'impression que le téléphone est plus poussif que l'ancien modèle, mais c'est totalement normal. Et au final, je le sais, mais j'ai toujours du mal avec le, avec ce, avec ce, avec ça. C'est que les premiers jours, il faut que tout se réinstalle, il faut que tout redescende du cloud, il faut que tout se réorganise bien, que tout se remboîte bien dans le téléphone. Et c'est vrai que ça donne toujours cette impression que les premiers jours, votre téléphone est beaucoup plus poussif, que la batterie tient moins bien que l'ancien téléphone, alors que le nouveau est totalement neuf. Mais là, voilà, au bout d'une semaine, les choses rentrent dans l'ordre. Vraiment, je m'y fais. C'est un très, très bon téléphone. J'en suis assez content. Maintenant, je suis réellement pressé de voir arriver l'Apple Watch série 7. Parce que comme je vous le dis, j'ai une Apple Watch Series 4 qui commence à faire son âge au bout de 3 ans. Il y a pas mal de fonctions dont j'aurais vraiment envie. L'oxygénation du sang, l'écran Always On. Donc voilà, je suis vraiment pressé que l'Apple Watch 7 arrive. Je vous la testerai, que ce soit sur le blog ou je vous en parlerai sur le podcast, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais bon, voilà, toutes les choses commencent à rentrer dans l'ordre et là, je suis assez content. On va passer sur les dernières petites choses que je voulais vous dire un peu en vrac comme ça. Là, ce week-end, j'ai beaucoup travaillé sur ma création de contenu. Je vous ai préparé pas mal d'articles qui vont arriver ces prochains jours, ces prochaines semaines sur le blog. Donc voilà, restez vraiment connectés. Allez voir assez souvent sur le blog. Ou sur mes réseaux sociaux, mais voilà, il y a quelques articles qui vont arriver très très prochainement sur le blog. J'ai aussi là ce week-end commandé deux produits dont j'avais réellement réellement envie depuis pas mal de temps et dont je vous ferai des petits tests sur le blog. Alors ça n'a rien de technologique ou alors enfin, ça a un peu un rapport avec Apple, mais c'est pas des outils technologiques. Alors vous connaissez peut-être si vous traînez beaucoup sur Instagram. Alors c'est des choses dont on voit assez souvent soit les pubs, soit pas mal de gens sur Instagram qui en parlent parce qu'ils les ont reçus, ils les prennent en photo. Mais voilà, je me suis commandé donc le petit support de chez Balolo, qui est un petit support assez design en bois, un petit tripod en bois assez design, assez beau pour le HomePod mini. J'en ai commandé deux qui vont aller sous les HomePod mini qui sont sur mon bureau. Donc voilà, c'est deux choses dont je voyais beaucoup de gens parler sur Instagram et dont j'avais vraiment envie de les avoir sur mon bureau. Donc je me les suis commandés ce week-end. Ils devraient arriver un tant soit peu, enfin assez rapidement. Donc voilà, je vous en parlerai, vous les verrez passer sur mes deux comptes Instagram, mais je vous en parlerai aussi. Je pense que je ferai un petit article dédié sur le blog. Autre chose dont j'ai fait l'acquisition là aujourd'hui, je l'ai commandé ce matin parce que je suis tombé sur une belle promo sur Facebook. Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir très largement passer sur les réseaux sociaux. C'est ces petits cadres assez design qui reprennent en fait des anciennes. Alors vous n'avez pas que des iPhones, mais plus souvent c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des iPhones. C'est ces petits cadres qui reprennent des iPhones, alors que ça soit 4, 5, 6, mais des iPhones qui sont totalement disloqués, qui sont complètement ouverts, dont on voit toutes les pièces qui sont bien bien agencées dans un petit cadre à bord noir avec un fond blanc. Voilà, c'est les petits cadres de chez Grid Studio. Et c'est des cadres qui valent à peu près 140 $ sur le site. Et là, je suis tombé ce matin sur une promo sur Facebook qui avec un code donnait quasiment 40 $ de réduction, ce qui faisait tomber le cadre à moins de 100 €. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Pareil, ça devrait arriver assez vite. Et c'est pareil, ça n'a rien de technologique, mais je vous en ferai quand même un petit retour sur le blog, parce que de ce que j'en ai vu, que ça soit au niveau du packaging, au niveau de la qualité du cadre, c'est de la très très belle finition. Donc voilà, c'est tout des choses dont je vous ferai un retour sur le blog assez rapidement. Voilà, c'est à peu près tout, moi, ce que je voulais vous raconter dans cet épisode. Je voulais pas laisser trop de temps entre deux épisodes. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup publié du contenu sur le blog et j'ai un peu délaissé le podcast parce que j'avais l'impression de pas avoir grand chose à dire. Mais voilà, là, en cette rentrée, j'aimerais bien rattaquer sur tous les fronts. Donc voilà, je republie pas mal sur mon deuxième compte Instagram, CPMP Stuff, pardon. Je republie pas mal de photos. Là, je publie bien sûr en ce moment pas mal de photos sur le nouvel iPhone. J'essaye aussi de faire pas mal d'articles sur le blog et je vais essayer ces prochaines semaines, bah voilà, d'être un peu plus récurrent sur le podcast et de vous publier des épisodes. Alors pas forcément de tests ou des épisodes sur les keynotes, malgré qu'ils devraient normalement dans les semaines, mois qui viennent, avoir une deuxième conférence Apple. Mais voilà, je vais essayer de vous publier quand même de temps en temps un petit épisode pour vous raconter les tests que je peux faire au moment où je les fais, où je les publie. et vous parler de choses et d'autres, voilà, qui se passent au niveau de ma création de contenu. Donc voilà, je fais pas plus long pour cet épisode. Je trouve que 24 minutes pour le peu que j'avais à vous raconter aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Moi, je vous donne bien sûr rendez-vous dans un prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir dans les notes de l'épisode pour retrouver tous les liens vers mes réseaux sociaux, vers les endroits où vous pouvez me joindre, où vous pouvez interagir avec moi. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée à vous. Ciao! Bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker dans votre application de podcast et à le partager. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.